Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Eh oui, Cause Commune, c'est 93.fm. C'est un rayon libre en chocolat qu'on va vous faire aujourd'hui. Il est 14h, lundi 1er avril 2024. Cette émission, en toute transparence, a été enregistrée vendredi 29 mars. Soyez les bienvenus pour ce 247e épisode de Rayon Libre. On va faire de la mobilité à 360 degrés aujourd'hui. Alors, le saviez-vous, on peut écouter Cause Commune et toutes nos émissions au choix sur 93.fm. Mais là, faut être parisien ou avoir la DAB+. En streaming sur le site cause-commune.fm. En podcast aussi sur le site, en podcast sur votre plateforme préférée. J'ai même découvert que Rayon Libre est aussi disponible sur Apple Podcast. Incroyable, non? Et puis aussi, vous pouvez nous écouter via l'appli Cause Commune, dispo sur Android et iOS. Tout cela est possible grâce à Olivier Gréco, qui est directeur de l'antenne Cause Commune, aux bénévoles aussi de Libre à vous et Cause Commune, par exemple Isabelle Carrère, mais il n'y a pas qu'elle. Abel Guggenheim, évidemment, qui viendra avec une chronique, merci à lui. Et puis grâce à vous aussi, cette émission, elle existe parce que vous êtes les invités, vous êtes les auditeurs et les auditrices. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une expérience vécue dernièrement. Pour une sombre histoire d'organisation, je me suis retrouvé sans vélo pendant 3 jours la semaine dernière. Le drame. Quand la cigale se voit fort dépourvue quand la bise fut venue, je me suis trouvé fort dépourvu quand j'ai dû aller au bureau, aller visiter le chantier du futur presque plus grand parking cyclable de France à la gare du Nord. Alors j'ai fait des trucs incroyables. J'ai co-vélo-taffé. Je me suis coordonné avec mon épouse, elle m'a droppé au bureau sur son chemin vers le sien, porté sur un long tail. J'ai marché aussi et au lieu de marcher, j'aurais pu prendre le tramway. J'ai préféré marcher. J'ai pris le métro, puis pour revenir, j'ai repris le métro et j'ai remarché. Je vais vous dire un truc, c'était super. En marchant, j'ai vu la ville encore sous un autre œil. Dans le métro, j'ai observé les voyageurs, les voyageuses. Il paraît que le métro, ça pue. Il paraît qu'il fait chaud, que le métro est toujours en retard. Alors bien entendu, hein, j'ai pas pris le métro à l'heure de pointe. En tout cas, j'avais une contrainte, pas de vélo, j'avais le choix. Scooter, bah non, c'est devenu horrible, Paris en scooter. Et en vrai, ça me va bien. Voiture, ah, je l'ai jamais même pas envisagé une seule seconde. Marche, bus, tramway, métro, on dira ce qu'on veut à Paris et en petite couronne. En matière de mobilité, il y a le choix. Il faut juste en prendre conscience. Visiblement, quand je vois les embouteillages boulevard Magenta, boulevard Malesherbes, pont de l'Alma, je n'arrive même plus à plaindre les automobilistes coincés dans la circulation. Ne me faites pas croire qu'ils sont 100% à ne pas pouvoir faire autrement. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de vélo, mais pas que. On va parler de mobilité, de réflexion autour des différentes mobilités. On va parler de chiffres un peu aussi avec Vincent Pilois, fondateur d'un cabinet d'études Innov 360 à l'initiative d'un collectif, Collectif Mobilité. Bonjour Vincent et merci d'être en studio avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Alors Vincent, vous êtes le fondateur d'Innov 360, votre business donc, et pourtant vous souhaitez être présenté comme à l'initiative d'un collectif mobilité. Dites-nous peut-être pour commencer ce qu'est Innov 360 et puis aussi quand même le collectif mobilité.
Innov 360, c'est une société que j'ai créée il y a une quinzaine d'années, après avoir passé 10 ans chez Michelin à lancer l'activité numérique. Moi je suis tombé dans la mobilité en faisant des cartes numériques, des GPS, des choses comme ça chez Michelin. Et en 2007, j'ai décidé de lancer Innov 360 pour accompagner la transformation de la mobilité.
Transformation numérique ou...
Alors, à l'époque, c'était très orienté innovation, puisqu'en ouais. fait, beaucoup de la mobilité qu'on réalise aujourd'hui, et on se rend pas toujours compte, est rendue possible par des outils qu'on a dans les poches, etc. Ouais. Hein, ouais. Aujourd'hui, faire du vélo avec un smartphone, ça donne des coups de main de temps en temps, quand ouais. on trouve un vélib, par exemple.
Prendre le métro, hein,
c'est... Le métro, c'est devenu, je dirais, une habitude, mais il y a une dizaine d'années, c'était pas encore le cas. Donc, au départ, chez Innov 360, on a beaucoup travaillé sur l'innovation pour transformer les transports. Et depuis quelques temps, on s'intéresse beaucoup plus à la transformation des usages
ouais.
Que à la technologie elle-même. On pense qu'aujourd'hui, la technologie, il y en a partout, il y en a suffisamment. L'enjeu, c'est beaucoup plus maintenant de transformer nos usages, et c'est ça qui nous intéresse.
Donc vous êtes en train de me dire que la Smart City, c'était hier, et aujourd'hui, c'est le Smart Traveler ou voilà. Smart Commuter.
Voilà, finalement, les outils, les technologies qu'on met en place, c'est surtout au service des gens, et comment finalement les gens se les approprient, et qu'est-ce qu'ils veulent en faire.
Ouais.
Et là, le champ des possibles est énorme, et c'est ça qui nous intéresse, finalement, ce que les gens ont envie de faire.
Donc partir de l'usager.
Voilà, partir de l'usager.
Et après, donc, comme vous me disiez, quand je vous invite à venir au micro, vous dites « Ah, mais moi, je préférais qu'on parle plutôt de collectif mobilité. » C'est quoi ce collectif mobilité? Et quand est-ce qu'il a été créé? Et quelle est sa mission, ou son ambition, ou son objectif?
En fait, justement, dans cette vision d'apporter une contribution, une petite pierre à l'édifice de la mobilité, chez Innov360, on a, après avoir... et travaillant depuis 15 ans... Dans le sujet, on se rend compte que les défis auxquels on est confronté, notamment le défi de décarboner nos mobilités, de les améliorer, etc., sont finalement des défis qui sont présents depuis très longtemps et qu'on arrivera à résoudre que collectivement. Et donc, en mettant, je dirais, autour de la table tous les acteurs de la mobilité, ils sont très nombreux. Ils ont parfois tendance à travailler un peu en silo. Et l'idée pour nous, c'est justement de décloisonner cet univers en mettant l'usager au centre et donc en apportant à cet écosystème une compréhension de ce que pensent les gens de leur mobilité.
Et puis comment ils l'abordent? Typiquement, ce que je dis en édito, à un moment donné, que j'ai une contrainte, comment je fais pour y aller et pour que ce soit finalement pas si désagréable que ça, et même pourquoi pas un moment sympa.
Voilà, alors on va apporter effectivement des éléments de perception, comment les gens perçoivent les choses, mais aussi des tendances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même rentré dans une période de transformation qui suit une époque où pendant, je dirais, les 30-40 dernières années, même s'il s'est fait beaucoup de choses, l'évolution de la mobilité était assez linéaire. On avait la voiture, les transports en commun, c'était un petit peu un monde avec deux gros géants. Et puis les nouvelles mobilités, justement sur lesquelles on travaille, on fait bouger les lignes. Il y a plein de choses nouvelles qui sont arrivées depuis une dizaine d'années, et on se rend compte que voilà, aujourd'hui la mobilité, ce sont des systèmes beaucoup plus complexes. Quand on parle de covoiturage, de vélo libre service, etc., ce sont des univers qui se complexifient, et c'est ça qui nous intéresse d'appréhender.
Alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites là, il y a deux choses. D'abord, je pense que le niveau des études et la transformation de la mobilité, on peut clairement dire qu'il y a eu un avant Covid et un après, je pense. Et on peut aussi, alors quand on travaille sur ces sujets-là, ça m'arrive moi, pour préparer mes émissions, que on se rend compte que les études qui sont sorties en 2020-2021 ont souvent été des enquêtes menées en 2019 ou 2020 qui ne veulent plus rien dire finalement, parce que et ça c'est aussi votre travail aujourd'hui, c'est de produire des études pour voir où ça en est aujourd'hui avec je dirais notre société qui a complètement changé, le télétravail, ce que vous dites, les coronapistes, les pistes cyclables, la mobilité partagée, etc.
Oui, alors ce qui est effectivement spécifique dans le collectif mobilité, c'est que on est parti du principe que on rentrait dans une phase de changement rapide et que donc il fallait pouvoir enquêter régulièrement à haute fréquence pour essayer de capter des tendances. Et en fait, le collectif s'est mis en place à la sortie du confinement, justement dans cette phase de sortie de crise où on se disait il faut comprendre ce qui se passe. Et on a pérennisé la démarche et aujourd'hui on est capable de faire des enquêtes tous les ans pour non seulement comprendre ce qui se passe à un moment donné, mais surtout voir comment les choses évoluent, parce qu'on est effectivement sur des dynamiques très rapides. On parle de la pratique du vélo, on va revenir dessus, ça évolue très vite en ce moment, mais on a fait une enquête récemment sur, par exemple, l'adoption de la voiture électrique. C'est un sujet qui va transformer massivement l'univers ou la perception de la voiture. Ça va bouger très vite dans les 4-5 ans qui viennent.
Donc ça veut dire que presque même une étude tous les ans, c'est presque assez même, il faudrait presque en faire une tous les 6 mois. Après, il y a une question de moyens.
Voilà, en fait, on a deux formats d'études. On a une enquête annuelle qui est une enquête générale où on essaie de détecter des grandes tendances par rapport à des sujets d'actualité, hausse du prix du carburant, une ZFE qui se met en place, des choses comme ça. Et puis, on a des enquêtes thématiques. Et là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une enquête thématique qu'on a fait sur un sujet particulier. Donc là, l'adoption et la pratique du vélo. Et dans ce cas-là, on n'a pas vocation à les faire tous les ans, mais on aura peut-être l'occasion de la refaire dans 2 ou 3 ans. Parce que dans 2 ou 3 ans, ça aura encore bougé. Ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé.
Alors, avant de rentrer justement dans cette étude et un peu dans ces chiffres, il y a aussi un autre point qui m'intéresse dans ce que vous disiez juste avant. C'est la notion de désiloté, c'est-à-dire que la mobilité était pensée transport en commun d'un côté, les voitures de l'autre, et puis c'était un peu ce que vous disiez, et puis alors là maintenant on a la mobilité partagée, la trottinette, le vélo, etc. Il y a un peu ce fameux partage de la route aussi. Dans le vélo, c'est aussi très siloté entre la mobilité du quotidien, le sport, le voyage et... Vous y arrivez ça, à désiloter? Autour de la table, vous avez tous les univers, tous les collectifs, toutes les typologies d'industrie?
Alors, on démarre, hein, c'est vrai qu'on est sur une démarche un peu long terme, mais on a déjà pas mal d'acteurs, puisqu'on a des collectivités. Ouais. Donc, quand on parle de déciloter, ou en tout cas de rapprocher l'écosystème, ouais, on a des acteurs publics.
Comme le département de l'Essonne, j'ai vu.
On a le département de l'Essonne, on a la région, Île-de-France, la ville de Paris. On a des spécialistes, des experts, donc par exemple l'Institut Paris Région, l'IFP Énergie Nouvelle. Ouais. On a des opérateurs traditionnels, Transdev, SNCF Réseau. Et puis, on a pas mal d'acteurs des nouvelles mobilités, publics ou privés. Donc, il y a cette dimension public-privé, grands groupes établis et start-up innovantes. Donc, c'est aussi ça qu'on veut, je dirais, mélanger autour d'un sujet commun qui est ce que pense l'utilisateur, puisque lui, en fait, il est exposé à tout.
Oui. Et concrètement, c'est quoi? C'est des réunions régulières? C'est une piste de travail? Donnez-nous vos insights et puis on va collecter, compiler, puis en faire quelque chose?
Alors aujourd'hui, ce sont essentiellement des enquêtes qu'on mène de façon mutualisée, c'est-à-dire que c'est aussi déjà le principe de dire on va interroger. Alors, on interroge sur des bassins de mobilité. Donc là, on va parler d'une enquête qu'on a fait en Île-de-France. On en fait aussi désormais maintenant dans la région lyonnaise et lilloise. Mais en Île-de-France, par exemple, on va interroger ensemble les franciliens. Donc, au lieu que le francilien reçoive déjà une quinzaine d'enquêtes différentes, il en reçoit qu'une. Ouais. Et c'est aussi une façon de dire, au lieu de poser tous les mêmes questions, essayons déjà de se mettre d'accord sur un questionnaire qu'on va faire ensemble. Et donc, on élabore ensemble le questionnaire, on partage les résultats, et puis on regarde, en fait, l'analyse. Alors, chaque membre est bien sûr à la disposition des résultats pour en faire ses propres analyses, mais on a effectivement des réunions de partage.
Avec une restitution.
Voilà, où on partage les résultats.
C'était important. Alors, on a pris quand même 11 minutes pour parler de ça, mais c'était important de poser le cadre avant de rentrer dans cette grande enquête mobilité Île-de-France. Elle est sortie, cette enquête, elle est sortie quand?
Alors, cette enquête, on a annoncé, on a partagé les résultats là récemment. Enfin, on vient juste de publier les résultats sur le site.
Ouais.
Elle a été faite, en fait, au mois de septembre.
Ouais.
Hein, donc, c'est une enquête qui a été faite fin septembre 2023. Et puis, on a analysé justement les résultats depuis. Mais on vient de la partager, donc c'est tout frais.
Alors, qu'est-ce que vous avez cherché à aller trouver comme information avec cette enquête? C'était quoi l'objectif initial?
Alors, le sujet, le thème, c'était vraiment d'une part l'adoption. Ce qu'on voulait essayer de mesurer, c'était est-ce qu'on est capable de comprendre l'impression qu'on a, c'est-à-dire que visuellement, on a tous l'impression, bien sûr, qu'il y a de plus en plus de vélos sur la route, mais finalement, ces vélos, d'où ils viennent, pourquoi les gens font du vélo, etc. Donc, nous, on essaye vraiment de comprendre qualitativement pourquoi certains comportements semblent se développer. Et donc là, en l'occurrence, il y avait vraiment un sujet d'adoption.
Ouais.
Est-ce que finalement, c'est toujours les mêmes personnes qui font de plus en plus de vélos, ou est-ce qu'il y a des nouveaux venus dans cet univers?
Et d'où ils viennent? Est-ce qu'ils étaient dans une voiture avant, ou est-ce qu'ils étaient dans les transports en commun?
Exactement.
Ou en hélicoptère, peut-être?
Tout à fait.
Vous avez trouvé des gens qui venaient en hélicoptère ou pas?
Pas encore. Pas encore, on l'a pas trouvé. Il y en a un probablement, mais on l'a pas trouvé encore.
Il a pas répondu. Il a dit je ne sais pas. On est quand même à la mi-temps déjà de Rayon Libre, donc on va faire la pause agenda et la pause musicale. Restez avec nous parce qu'on va aller un peu plus en détail sur le contenu et les trouvailles et les quelques insights qu'a trouvé Vincent. En attendant quand même, donc il est 14 normalement, il devrait être 14h12 ou 13 chez vous, mais là comme je vous disais, l'émission elle est enregistrée. Après l'agenda, on discutera donc ce que vous avez trouvé, ce qui est étonnant, ce qui l'est moins, Vincent. Alors qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Qu'est-ce que je vous propose? Alors d'abord vendredi soir, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, soirée apéro micro ouvert chez Cause Commune. Venez apporter votre boisson préférée. Nous la ferez goûter, et puis nous, on vous fera goûter la nôtre. À mon avis, il y a du houblon dans la nôtre. Si vous avez envie, vous pourrez vous glisser au micro à partir de 19h, c'est au 22 rue Bernard Dimet, Paris 18. Ensuite, je l'évoquais en intro, envie d'en savoir plus sur le presque bientôt plus grand parking vélo de France à la Gare du Nord, et filez sur wheels.fr. Sinon, je note aussi l'Amazon Web Summit au Palais des Congrès le 3 avril. Alors, on aime ou pas se faire livrer par Amazon, c'est un choix. Par contre, se passer du cloud Amazon, je crois que c'est un peu plus compliqué. Il faudrait que je demande à Libre à vous. En tout cas, je pense que c'est un endroit qui est intéressant à aller voir, notamment sur la notion de sport et de e-sport. Pour la musique, on va s'écouter Aya Nakamura, Pookie. Est-ce qu'elle mérite tous ces sauts de haine? Mais quand même, avant de lancer Aya, je vous parlais du presque plus grand parking vélo de France, de Gare du Nord à Paris, le parking d'Utrecht, petite ville de Hollande, 360 000 habitants, quand Paris en compte à peu près 2 millions d'eux. Est-ce qu'il est 10 fois plus petit, de la même taille ou 10 fois plus grand? Vincent, ce serait une question pour vous. A tout de suite pour la deuxième partie de Rayon Libre avec Vincent Pilois qui vient au nom du collectif Mobilité nous causer études de mobilité en Île-de-France. On s'écoute Aya Nakamura.
Ah, tête, bon qu'à planer. Ouais, je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé fait du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé fait du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas, bang, bang, bang. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas, bang, bang, bang. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Pouki, pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons boys, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas, bang bang bang. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas, bang bang bang. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé fait du sale. Allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé fait du sale. Allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé, tu veux ça. Oh c'est chaud là, oh. Oh c'est chaud là. Oh c'est chaud là, oh. Oh c'est chaud là. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah, ah, j'ai vu dans ça.
Et oui, il doit être à peu près 14h17 sur 93.1 FM, toujours Rayon Libre, Cause Commune. Vous êtes là pour la deuxième partie de cette émission avec Vincent Pilois, qui est le fondateur de Innov 360 et qui est à l'initiative d'un collectif qui s'appelle Collectif Mobilité. Vincent, causons études un peu sur la mobilité. Avant, quand même, le parking d'Utrecht, 10 fois plus petit, même taille ou 10 fois plus grand que bientôt le presque plus grand parking vélo de France à la Gare du Nord.
Je dirais 10 fois plus grand.
Eh oui, c'est ça, 10 fois plus grand. À Paris, il va faire à peu près 1200 places, quand à Utrecht, il fait 12 000 places. Juste pour avoir une notion un peu de valeur et d'échelle, quoi. Revenons à votre étude, Vincent. Comment vous entrez, et ce que vous disiez, hein, c'est pourquoi l'adoption des usagers sur certaines mobilités ou d'autres, hein, c'est ça ?
Oui, alors, surtout sur l'adoption, on a posé une question simple. On a demandé aux gens qui pratiquaient le vélo, depuis quand le pratiquez-vous ?
Oui.
Et donc là, ça nous a permis de détecter que ce phénomène est en très forte accélération depuis le Covid, on en parlait, et puis que cette accélération, elle s'est produite dans un premier temps 2020, 2021, 2022 à Paris Petite Couronne. Mmh. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on a pu détecter dans cette enquête, c'est que sur 2023, le territoire où la progression est la plus forte, c'est la Grande Couronne.
Ouais.
Et où là, on voit un taux d'adoption du vélo 10 fois plus important qu'avant Covid. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de personnes en Grande Couronne en 2023 qui sont mis au vélo qu'avant Covid. Donc on est sur un changement d'échelle
important. Sur la capillarité,
qui est probablement moins visible parce qu'on est sur un territoire beaucoup plus large, mais 10 fois plus de cyclistes, c'est important. Et c'est aussi un message assez intéressant pour les territoires de Grande Couronne, parce qu'aujourd'hui, cet univers du vélo, ils le connaissent moins que les villes, centres, qui ont engagé beaucoup de travaux depuis plus longtemps, puisque notamment à Paris, cet accompagnement de vélo, il était préexistant au Covid. En revanche, en Grande Couronne, c'est un encouragement pour les élus, pour les services techniques de ces territoires, à dire il faut y aller, les gens veulent du vélo.
Donc ça veut dire que vous êtes en train de proposer un outil militant, un outil pour pouvoir expliquer pourquoi il faut faire des pistes cyclables, des infrastructures et je dirais un écosystème vélo.
Alors, dans le collectif mobilité, on n'a pas vocation à être militant parce qu'on veut avoir cette vision globale.
Ouais.
On essaye d'être factuel. Donc je pense que 10 fois plus de cyclistes, c'est pas du militantisme, c'est juste du constat,
ouais,
pour dire les gens veulent du vélo, et quand on regarde leur motivation, généralement d'ailleurs, ce qui ressort aussi de l'enquête, c'est que tous les gens qui se mettent au vélo ont plutôt la banane quand ils s'y mettent et ils la gardent. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Hein. Dans l'enquête, on voit que les gens qui le pratiquent le pratiquent dans la durée.
Ouais.
Donc ça c'est un message fort.
Mais il y a aussi un point moi que je trouve intéressant dans votre étude, c'est la notion de coût. Le vélo et le vélo assistance électrique est perçu comme une mobilité abordable, quand de l'autre côté on n'arrête pas de nous dire mais les vélos sont trop chers, etc., etc. C'est inabordable. Comment est-ce que vous arrivez à... Alors peut-être que je vous vois de gliner de la tête, donc ma lecture est peut-être pas la bonne, mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
En fait, c'est vrai qu'il y a deux éléments. D'un côté, on se rend compte que le VAE, ouais, le vélo électrique, c'est effectivement un accélérateur, et ouais, on se rend compte que les nouveaux accédants sont plus consommateurs de vélos électriques que les anciens.
Ouais.
On voit qu'aujourd'hui, le taux d'équipement vélo électrique pour les nouveaux accédants, c'est de l'ordre de 32%.
C'est beaucoup.
Donc d'un côté, on a ce phénomène, donc il y a une adhésion très forte pour vélo électrique. En revanche, on a quand même un retour que les gens considèrent quand même que c'est un peu plus cher.
Ouais.
Donc, je pense que s'il était plus abordable, il y aurait encore plus de pratiquants de vélo électrique.
Et justement, ce qu'on voit aussi dans cette étude, alors notamment, moi, il y a un chiffre qui m'a étonné, c'est que dans votre étude, à peu près 50% des répondants déclarent être cycliste ou faire du vélo, hein, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est aussi parce qu'on a posé la question de façon assez large. Est-ce que vous pratiquez le vélo? Le vélo, c'est aussi un outil pour faire du sport, etc. Donc on a toutes les dimensions. En revanche, les cyclistes quotidiens, on se rend compte que là, on a un petit 20% de répondants qui disent en faire au moins 4 fois par semaine.
Au moins 4 fois. Donc, ça,
c'est des gens du coup qui l'utilisent pour le quotidien, pas uniquement pour aller faire un tour en forêt le week-end.
Et pareil, on voit aussi qu'il y a un taux d'équipement qui est assez intéressant. Est-ce que ça, vous l'avez mesuré, ce taux d'équipement, dans le temps ou pas du tout?
Alors, on interroge régulièrement sur le taux d'équipement, donc on voit qu'effectivement il est en croissance, mais on voit aussi que le vélo c'était quand même c'est un équipement qui est présent historiquement dans les foyers, donc oui, il augmente avec l'adoption et la pratique, notamment sur le vélo électrique, mais il était aussi déjà très très présent de façon historique.
Vous me parliez tout à l'heure, avant la pause musicale, de ce que vous allez chercher, c'est pourquoi l'adoption. Alors vous avez donné un peu un élément de réponse tout à l'heure en disant en fait ceux qui se mettent au vélo, ils le font avec la banane, donc c'est quand même une notion de plaisir, donc on passe d'une mobilité contrainte à une mobilité contrainte et pas si désagréable finalement. Malgré tout, est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi? Est-ce qu'ils y vont parce qu'ils sont pas satisfaits de leur voiture, parce qu'ils sont pas satisfaits des transports en commun? Est-ce qu'ils y vont par dépit ou est-ce qu'ils y vont... Est-ce qu'on a cette notion-là?
Alors, on a posé en fait deux questions. Une question sur ce qui a déclenché l'envie de vélo et ce que vous en retirez comme bénéfice.
Ouais.
Et on se rend compte que c'est assez cohérent.
Oui.
C'est-à-dire que la motivation principale, c'est une motivation, on va dire, santé, bien-être, sport. Les gens veulent
avant
faire de l'activité.
Avant l'écologie.
Avant l'environnement. Donc l'environnement est bien sûr assez solide, je dirais un petit peu, sur toutes les catégories.
Oui. C'est la cerise sur le gâteau.
Alors je pense que pour certains, c'est une motivation, mais on voit que suivant les tranches d'âge, suivant les acteurs, enfin les lieux, par exemple, en région parisienne, il y a aussi tout un côté pratique où les gens, en gros, ils nous disent faire du vélo, c'est efficace pour se déplacer à Paris. On avance bien, on se déplace bien. Et il y a aussi un côté économique alors qu'on voit justement un petit peu plus dans la Grande Couronne, où probablement des gens qui sont plus dépendants de la voiture et qui se rendent compte qu'en faisant certains trajets en vélo, ça leur permet peut-être de faire le plein un peu moins souvent.
Ouais.
Il y a quand même cet aspect-là aussi qui est de dire finalement, un trajet en voiture, ça coûte de plus en plus cher.
Mais est-ce que ça voudrait dire que demain, l'essence revient à 1 euro le plein, tout d'un coup, il y aurait un retransfert vers la voiture?
Je pense pas, parce que justement, quand on interroge les gens sur le bénéfice qu'ils en tirent, on voit quand même que le bénéfice santé, bien-être, il est très fort. Et 96% des gens qui disent pratiquer vélo nous disent qu'ils vont augmenter leur pratique dans les années qui viennent. Donc 96%. Donc il y a de la fidélisation.
Il y a un autre point qui m'intéresse. On en parlait un peu en dehors du micro. C'est la cohabitation, les tensions entre... Allez, on parle de vélo, mais la cohabitation entre les néocyclistes, les expérimentés, etc. Ça, c'est un point que vous êtes allé chercher aussi dans votre étude.
Ouais. Alors on a bien sûr posé la question de la cohabitation. Alors entre cyclistes, où on voit qu'effectivement globalement ça se passe bien, mais On voit quand même que le cycliste quotidien, il est probablement plus à l'aise que le cycliste ponctuel qui peut sentir, notamment à Paris, qu'il y a de la densité.
Ouais.
Et donc, il faut savoir naviguer, faut aussi avoir un petit peu de savoir-faire donc, qui s'acquiert. Et puis, on a aussi interrogé sur les relations entre le cycliste et l'automobiliste,
ouais,
bien sûr,
ouais,
et le cycliste et le piéton. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la différence entre les réponses des cyclistes et celles des non-cyclistes.
Ouais.
Parce qu'on peut penser que les non-cyclistes, ils sont plutôt du côté du piéton ou de l'automobiliste quand la question est posée.
Ouais.
Et là, on se rend compte que probablement ce qui ressort comme plus grande tension, c'est la tension cycliste-voiture.
Ouais.
Bon, et là, je dirais, il n'y a pas trop de surprises parce que on est sur un partage d'une voirie encore dans beaucoup de cas, hein, donc c'est sûr que là la tension elle est plus forte, mais c'est assez intéressant de voir que avec les piétons, les non-cyclistes trouvent quand même probablement que les cyclistes ont pris de la place,
ouais,
et donc on voit que les avis sont aussi font apparaître qu'il y a une tension. Donc globalement, nous on en tire la conclusion que y a de la tension, je dirais, nouvelle entre ces modes, mais c'est pas une surprise parce qu'on est dans des territoires très denses, hein. On voit d'ailleurs que la tension qui est reçue entre, par exemple, Paris ou la Grande Couronne,
ouais,
est pas du tout la même.
Il va falloir lancer la chronique d'Abel. Abel, je sais pas s'il a l'habitude, lui, d'aller en province. Je sais qu'il était à Grenoble il y a pas si longtemps que ça. C'est le moment de sa chronique. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Quel sujet de réflexion vous proposez en ce lundi de Pâques 1er avril? J'ai longtemps hésité. La tentation était grande de céder à la coutume médiatique du poisson d'avril en inventant une fausse information dans laquelle j'aurais, conformément à la tradition, glissé un ou plusieurs noms de poissons en parlant par exemple de saumon, surnom donné aux cyclistes qui remontent à contresens les pistes ou bandes cyclables unidirectionnelles, ou d'un lieu dont il faudrait améliorer la sécurité en y implantant un aménagement cyclable. Mais ce serait risqué, car beaucoup de choses qu'on voit couramment aujourd'hui pouvaient passer pour des poissons d'avril il y a encore peu d'années. Remonter en toute légalité une rue en sens interdit à la circulation générale, passer tranquillement devant un feu rouge simplement par la magie d'un pas dont la forme, la dénomination contraire à sa signification et surtout une formidable campagne de non-communication ont fait qu'il reste inconnu à la majorité des non-cyclistes. Se retrouver en nombre plus important que les automobilistes sur certains grands axes parisiens. N'être plus jamais oublié lorsqu'est déclinée la liste des modes de déplacement existants. Voilà des sujets de poisson d'avril que j'aurais pu développer ces dernières années. Peut-être l'ai-je d'ailleurs déjà fait et oublié. Le risque serait donc grand si je m'aventurais à imaginer aujourd'hui quelque chose d'impossible, que ce soit devenu une réalité dans quelques années. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à une équipe de la télévision française dans un sujet de 1er avril en 1967, il y a donc 57 ans. Ce reportage largement prémonitoire annonçait la recommandation par les pouvoirs publics parisiens de passer de l'automobile à la bicyclette et se terminait par le départ à vélo d'une équipe de tournage depuis le fameux siège de la rue Cognac-Gé. On indiquera sur le site de l'émission le lien vers le site de l'INA qui en garde la trace. C'est pourquoi, comme certains hôtels passent directement de la chambre 12 à la chambre 14, je sauterai lâchement cette chronique du 1er avril et vous retrouverez avec plaisir lundi prochain 8 avril à la fin de l'émission animée par mon ami Jérôme Sorel.
Merci beaucoup, Abel. Alors oui, Vincent, cette question-là, est-ce que vous faites la même étude mobilité enquête Île-de-France sur la région Rhône-Alpes, sur Lyon, sur Toulouse, sur Marseille, sur Lille?
Alors dans le principe, oui. En revanche, cette étude, c'est la première qu'on a faite,
ouais,
et on l'a faite uniquement sur l'Île-de-France. Mais on est actuellement en discussion avec la métropole de Lyon, avec l'Eurométropole de Strasbourg, parce que ça nous intéresse justement d'aller faire ce même type d'enquête au même moment sur ces territoires. Parce qu'on peut penser qu'il y a effectivement des territoires qui sont plus en vacances. En avance, on parlait d'Utrecht tout à l'heure.
Ouais.
On peut dire que probablement une ville comme Strasbourg,
ouais,
probablement que sur le vélo, en France, c'est un endroit où la culture vélo, elle a un peu d'avance. Et donc, ça nous paraît intéressant d'aller capter ce que les gens pensent là-bas de cette pratique,
ouais,
et de le comparer à ce qu'on peut voir dans des territoires moins avancés.
Super. Tenez-nous au courant quand elle sort.
Bien sûr.
Cette étude enquête mobilité, où est-ce qu'on peut la trouver?
Alors,
évidemment, il y aura un lien sur le fiche de l'émission, mais.
On a un site donc qui s'appelle collectif-mobilité.fr,
ouais,
sur lequel on partage tous les résultats de nos enquêtes. pour les répondants qui nous font la sympathie de contribuer, oui, mais aussi tous ceux que ça intéresse.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous n'avez plus qu'à aller cliquer sur collectif-mobilité.fr, mobilité au pluriel.
Non, au singulier.
Au singulier, parce que c'est la mobilité avec une M majuscule. On reviendra la semaine prochaine, c'est la fin de Rayon Libre. Avant, on se voit vendredi soir, hein, n'oubliez pas, apéro de cause commune. N'oubliez pas d'aller pédaler aussi entre-temps, parce que sinon vous pourriez avoir des caries avec tout ce que vous allez manger aujourd'hui. Restez sur 93.1 FM, cause commune. Il doit être à peu près 14h30, et à la semaine prochaine pour les flemmards qui ne viendront pas vendredi. Merci beaucoup, Vincent.
Merci. Rayon Libre.